Oui, donc il y a 2 semaines, nous avons étudié ensemble la parabole des talents, du chapitre 25 de l'Évangile de Matthieu. Je propose le même passage aujourd'hui afin que nous puissions entrer dans la même mine pour recueillir plus de leçons pour nous, car nous savons que que la parole de Dieu est une mine de richesses incommensurables. La fois précédente, nous avons analysé des questions comme ce qui est une parabole et pourquoi le Seigneur Jésus parlait souvent à travers des paraboles. La parabole de Jésus était l'histoire qui était posée à côté d'une vérité afin d'illustrer cette vérité. Une description courante d'une parabole est qu'il s'agit d'une histoire terrestre avec une signification céleste. Pendant un certain temps de son ministère, Jésus s'est beaucoup appuyé sur les paraboles. Il en a raconté beaucoup. En fait, selon Marc 4, 34, il ne leur parlait pas sans parabole. Il y a environ 35 à 50 paraboles de Jésus enregistrées dans les évangiles synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ils n'ont pas toujours été ainsi. Au début de son ministère, Jésus n'utilisait pas de paraboles, mais soudainement, il s'est mis à parler exclusivement via des paraboles. À la grande surprise de ses disciples qui lui demandèrent, « Pourquoi leur parles-tu en paraboles ?» Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en paraboles, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. » C'est le passage de Matthieu 13, 10 à 11. Après avoir raconté certaines de ces paraboles, Jésus dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. C'était un appel à écouter les paraboles, non pas comme on écouterait une histoire ordinaire, mais comme quelqu'un qui cherche la vérité de Dieu. Que Dieu nous accorde à tous des oreilles pour entendre vraiment. La Bible nous exhorte à être toujours prêts à écouter. Mais quelle est la définition de ces deux verbes, entendre et écouter? Ils ne sont pas pareils. Entendre, c'est recevoir des sons par l'organe de lui et écouter, c'est tenir compte des paroles prononcées. On entend toujours les bruits autour de nous. Ici, dans cette salle, nous entendons toujours le bruit d'avion voler, mais nous écoutons le sermon. Savoir écouter, c'est se mettre à la disposition de l'autre. Consacrer du temps, des moments, donc il faudra les créer et de préférence dans un environnement calme. Donc écouter demande la disposition de notre cœur et le cerveau. Dans le récit de Matthieu 13, 34-35, Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole, et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. En fait, Jésus cite Psaume 78, le verset 1 à 3, je vais lire. Il dit, « Prête l'oreille à ma loi, mon peuple, inclinez vos oreilles aux paroles de ma bouche. J'ouvrirai ma bouche en parabole, j'annoncerai les énigmes des jours d'autrefois. Nous avons entendu et connu et que nos pères nous ont raconté. » Je lis de version Darby. Dans les autres versions, c'est écrit différemment. Mais ici, nous voyons d'entendre. La parabole prend la vérité cachée de Dieu et il la résume avec une situation plus facile à décrire. Cela attire l'intérêt de quiconque veut connaître cette vérité. Ceux qui suivent une recherche de la vérité et creusent dans le sens profond sont ceux que Jésus appelle ses disciples. Maintenant, nous allons lire le passage de Matthieu, chapitre 25. On va lire à partir du verset 14. Matthieu 25, 14 à 30. Donc Matthieu 25, verset 14 à 30. Il en sera comme d'un homme qui part pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'avait reçu qu'en alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha apportant 5 autres talents, il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Le verset 22, « Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi, il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, beau et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'es pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent, donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et le grincement des dents. » Donc la question maintenant, c'est quand nous lisons ce parabole, il y a la question de le maître qui part en voyage et il revient. Et nous savons que la parabole, ça parle de Seigneur Jésus qui a quitté la terre après sa résurrection. Il a dit qu'il va revenir. Et la question pour nous, sommes-nous prêts à rencontrer notre maître? Sommes-nous prêts à rencontrer notre maître? La dernière fois, nous avons essayé d'analyser et de comprendre le sens de la parabole des talons. Mais aujourd'hui, nous prendrons le temps de voir cette parabole sous un angle un peu différent. Tout d'abord, replaçons cette parabole dans son juste contexte. Cette parabole se trouve dans la dernière page de l'évangile de Matthieu et à la fin de la vie terrestre de Seigneur Jésus. Il parle à ses disciples de son départ imminent de ce monde et de sa seconde venue. Nous voyons que toutes les paraboles de Jésus dans les dernières pages de cet évangile parlent de cela. Souvenez-vous des dernières paroles de Jésus avant qu'il ne quitte cette terre. se trouve dans l'évangile de Matthieu, dans le dernier verset. Allez, faites de toutes les nations des disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est ça la dernière parole du Seigneur Jésus avant de quitter cette terre. À mon avis, c'est le verset clé, c'est le verset clé pour comprendre la parabole des talents. Et notre parabole commence par le verset 14. Il en sera comme d'un homme qui part pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Une simple lecture de cette parabole dit simplement que cet homme part dans un long voyage et avant de partir, il appelle ses serviteurs et distribue sa richesse à chacun de ses trois serviteurs. Il revint au bout d'un certain moment et appelle ses serviteurs un par un pour voir ce qu'ils ont fait de sa richesse qu'il avait confiée à chacun d'eux. Les versets 19 à 20 de Matthieu 28 sont connus comme la grande commission. C'est un commandement, n'est-ce pas? Quand le Seigneur a dit, allez, faites le disciple partout dans le monde. Donc, c'est un commandement qui a été donné à ses disciples. Les disciples de Jésus ont reçu le commandement de faire certaines choses pendant l'absence du Seigneur Jésus de cette terre. C'est leur mission pendant son absence. Le maître fait un long voyage, mais il ne donne aucune indication de l'heure de son retour. Quand nous verrons l'autre parabole de ce genre de Jésus, nous comprendrons peut-être mieux comment et quelle manière il devrait attendre son retour. Prenez avec moi Marc chapitre 13, versets 32 à 37. Gardons la main sur Matthieu 25. Marc 13, 32 à 37. Pour ce qui est de jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui part pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche, et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant de coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Donc, c'est ça le contexte. Le Seigneur, le maître, il part et il dit qu'il va revenir, mais personne ne sait quand il va revenir. Mais il a donné chacun une tâche à accomplir. Ainsi, Jésus dit à ses disciples que personne ne peut connaître l'heure de sa seconde venue. On leur a conseillé de veiller et de faire le devoir donné à chacun de ses serviteurs. Le maître ne doit pas trouver ses serviteurs endormis ou n'en rien faire quand il vient. C'est le message de la parabole de 10 vierges au début de Matthieu 25. La première partie de Matthieu 25 jusqu'à verset 13, sa false parabole de 10 vierges. On connaît cette histoire. Donc, la première question c'était, attendons-nous la venue de Jésus-Christ, le retour de Christ? Et deuxièmement, quelle est votre mission en attendant? Attendons, mais quelle est notre mission en attendant le retour de Christ? Il y a un groupe de chrétiens qui s'appelle Adventiste de septième jour. Le mot Adventiste, ça veut dire ils attendent la venue de Christ. C'est bien. Mais qu'est-ce qu'on fait pendant que nous attendons la venue de Christ? Le troisième serviteur est un personnage intéressant de cette parabole. On voit trois serviteurs. Donc, c'est plutôt, nous allons voir sur lui. Nous pouvons apprendre beaucoup de cet homme. Le troisième serviteur, c'est-à-dire la troisième personne à de recevoir un talent. Entre parenthèses, le maître n'a fait aucune classification entre eux. Il a traité tous les trois pareils. Il traitait tous les trois de la même manière, mais il leur donnait des talents selon leurs propres capacités. C'est ça que la parole nous dit. Oui, en parlant de troisième serviteur, quelle était son attitude? Si vous me demandiez s'il croyait que son maître reviendrait un jour, je dirais peut-être ou peut-être pas. La bonne question est de savoir pourquoi il n'a pas agi comme les deux autres. Pourquoi il n'a pas agi comme les deux autres serviteurs? Regardez les versets 16 à 17 de Matthieu 25. Matthieu 25, 16 à 17. On voit ici, aussitôt celui qui avait reçu les cinq talents s'en alla, le fit valoir et il gagna cinq autres talents. Le verset 17, de même, celui qui avait reçu les deux talents en gagnant deux autres. Pourquoi n'a-t-il pas commencé à travailler immédiatement? Le troisième serviteur en question, pourquoi il n'a pas commencé à travailler immédiatement? Pourquoi a-t-il décidé d'enterrer ou cacher le talent qu'il a reçu? A-t-il supposé qu'on ne lui demanderait jamais de rendre compte de ce qu'il a reçu? Ou peut-être il a pensé que le maître ne reviendra jamais, donc il peut cacher le talent et un jour il peut prendre pour lui-même, pour utiliser. Avait-il probablement été déçu par le traitement que lui infligeait son maître? Après tout, le maître ne lui avait donné qu'un seul talent, n'est-ce pas? Il a donné cinq pour un autre, deux pour un autre, mais un seul. Mais même un seul talent représente une énorme somme d'argent, ce qui équivalait de 15 à 20 ans de salaire de cette époque. Peut-être avait-il comparé aux deux autres qui en avaient reçu 5 et 2 plus que ceux qu'il avait reçu. Parfois, je pense que les gens errent comme des pauvres, comme les mendiants, se plaignant de n'avoir rien ou trop peu dans la vie en comparant leur vie avec les autres. Ils ne sont jamais heureux. N'est-ce pas parce qu'il y a une pénurie de gratitude dans leur vie? Un cœur ingrat n'a pas de quoi se réjouir. Parfois, ce problème n'est pas visible parce qu'il enterre le sentiment sous terre et le cache aux autres. Mais leur vie devient amère progressivement. Ils pensent que Dieu n'a pas été gentil envers eux, qu'il leur donnait trop peu pour exiger trop. En tant que disciples, nous sommes fondamentalement des serviteurs de Dieu, n'est-ce pas? Nous pouvons être nommés disciples de Jésus ou des chrétiens. Ce n'est que indicatif, mais fonctionnellement, nous sommes tous les serviteurs de Dieu. Combien de fois sommes-nous heureux de montrer notre position en tant que chrétien ou de disciple de Jésus-Christ et d'oublier notre fonction, notre devoir dans ce monde? Rappelez-vous ce que Jésus a dit quand il appelait ses disciples à le suivre. Il dit, « Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Un disciple est appelé à faire des autres disciples de son maître, pas seulement à être assis sous les figuiers. Nous sommes appelés à servir. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Nous ne devrions donc jamais oublier qu'en tant que serviteur de Dieu, nous sommes ici pour servir notre maître. Notre raison d'être est pour servir. on n'a pas d'autre raison pour être ici. Nous sommes là pour servir notre maître qui est absent visiblement, mais nous sommes là pour servir, nous sommes en train de servir notre Dieu, notre maître. Dans la parabole des talents, le troisième serviteur a-t-il pensé qu'il méritait un meilleur traitement? Malheureux et découragé, est-il allé cacher le talent sous terre? Cela arrive assez souvent dans l'Église de Dieu. Nous pensons que nous méritons un meilleur traitement. Nos capacités ont été sous-estimées. Nous commençons à comparer avec les autres. Bien que cela puisse parfois être vrai dans une église, et moi, quelle devrait être mon attitude? Mais quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Suis-je prêt à accepter et travailler car Dieu est souverain dans l'ensemble et me jugerai selon tout ce que j'ai reçu? Dieu, quand il va nous demander de rendre compte, ce sera individuel. Qu'est-ce que toi, tu as fait avec ce que je te donnais? Il n'y aura pas de comparaison. Romains 12, 3, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Je relis, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. Romains 12, 3. Pensez à David, qui était un berger qui veillait sur ses brebis dans le désert. Le Seigneur l'a fait sortir du désert pour le faire roi d'Israël. Ce n'est pas Samuel ou Saül ou le peuple d'Israël qui ont fait de David un roi. N'oublions jamais que le Seigneur peut faire un simple berger au roi sur son peuple Israël, comme il peut faire le puissant roi de Babylone, Nebuchadnezzar, manger les herbes comme les bêtes des champs. Dieu ne peut tout faire, il a droit de faire. On ne peut pas questionner le Seigneur. Pourquoi tu m'as donné peu ou trop? On ne peut pas questionner. Donc le troisième serviteur, celui qui n'a reçu qu'un seul talent, peut très bien représenter parfois notre attitude envers Dieu. Lorsque le maître a partagé sa richesse, les deux autres ont obtenu plus que lui. Ne pensons-nous pas parfois que le Seigneur ne nous a pas beaucoup donné? Ou quand nous pensons que nous n'avons pas grand-chose à travailler pour lui? Mais souvent, ça, dans les églises, on peut entendre ces paroles. Je ne peux pas faire grand-chose. Je ne sais pas faire grand-chose. Et d'une manière indirecte, nous plaignons que Dieu n'a pas me confié beaucoup. Mais par contre, il a confié pour des autres. Est-ce que c'est vrai? Le deuxième serviteur n'en a eu que deux par rapport au premier, qui a eu cinq. Il n'a pas grogné ou murmuré à propos de ce qu'il a obtenu. Il n'a pas comparé avec les cinq. Et ce qu'il a fait, lui aussi, à son tour, a commencé à travailler aussitôt sur ce qu'il a obtenu et a doublé les talents, tout comme le premier serviteur qui a reçu des éloges de son maître. Et il a reçu l'éloge de son maître. Et le deuxième, il a eu la même chose comme le premier. Il n'a pas eu la même chose comme le premier, il a eu que deux en comparant, si nous comparons avec le premier, qui a eu cinq. Mais le résultat, c'est le même. Il a doublé ce qu'il a reçu. Le maître a tout à fait le droit de faire ce qu'il juge bon. Il est comme le potier dans Romains 9, 20, 21. Le potier n'est-il pas le maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'usage vil? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? On peut poser la question, est-ce que Dieu connaît mes problèmes, mes défauts? Est-ce qu'il me connaît vraiment? Oh oui. Il a su avant même que nous soyons dans le ventre de notre mère. Il nous connaît même par notre propre nom. Le problème est assez souvent avec nous. L'Église de Dieu souffrirait soit à cause des gens qui pensent trop haut d'eux-mêmes, soit trop peu d'eux-mêmes. Les deux sont mauvais. Qu'aucun homme ne vienne à Dieu comme l'orgueilleux Naaman. On connaît qu'il était lépreux, mais il était un homme très fier. Si on lit je pense que c'est dans le livre du roi, je lis le passage pour vous. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité, il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi et il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? » Donc, il était lépreux, mais il était quand même fier. Un homme fier, il a pensé, il avait ses propres imaginations ou présomptions. Il pensait que le prophète, il devrait le guérir comme il a pensé, mais comme ce n'était pas le cas, il voulait retourner chez lui. Donc, on peut être orgueilleux comme Naaman, ou bien comme Moïse, quand Dieu l'a trouvé apte, alors qu'il faisait paître ses brebis pour acheter son peuple hors d'Égypte. Ne soyez jamais concernés par le froncement de sourcils des hommes fiers ou gonflés par l'applaudissement de beaucoup. Laissez Dieu, le juste juge, vous évaluer. Quand le Seigneur envoya le prophète Samuel chez Isaïe, ou Jesse dans la Bible, le père de David, chez Isaïe, pour choisir un roi sur Israël, Isaïe fit passer ses 7 filles devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, « L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. » Puis Samuel dit à Isaïe, sont là tous tes fils. » Il répondit, « Il reste encore un plus jeune, mais il fait paître les brebis. » Donc même pour son père, David n'était pas considéré. Il n'avait pas beaucoup de considération pour David. Alors Samuel dit à Isaïe, « Envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu. » Ici, Isaïe envoya chercher. Or, il était blond avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, on-le, car c'est lui. » Samuel prit le corne de l'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour. Dans la suite. Donc nous voyons que parfois le monde il peut penser ce qu'il peut penser de nous, mais en tant que serviteur de Dieu, en tant que disciple de Dieu, notre seul devoir c'est de servir Dieu. Et nous n'avons pas faire des estimations de nous-mêmes, mais nous devrions avoir plus de soucis comment Dieu nous voit. Et c'est 1 Samuel chapitre 16, le verset 7, « Et l'Éternel dit à Samuel, ne prend point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. C'est ainsi qu'un serviteur de Dieu, il devrait voir ce qu'il devrait faire pour le Seigneur. Ne vous y trompez pas, Dieu sait exactement à qui donner et quoi donner. Soyez juste fidèle à lui. Pourquoi Dieu a-t-il rejeté les sept frères de David et l'a-t-il choisi? Dieu connaît le cœur de chacun de nous. Il choisit chacun de nous spécifiquement pour son travail. Comme étaient Pierre et Paul, les deux étaient complètement différents, vous savez. Pierre était choisi par Dieu pour les Juifs, pour prêcher l'Évangile pour les Juifs, et l'apôtre Paul pour des païens. Et nous ne sommes pas tous créés avec des compétences, des talents égaux. Et quand on pense à talent, mais bien souvent il y a une erreur, on peut imaginer que le talent c'est de chanter ou parler ou des autres choses spectaculaires. Le talent c'est même la vie, c'est un don de Dieu. Le fait que nous respirons, ce matin une sœur a prié que nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui sont péris en Maroc. Le souffle de vie c'est un don de Dieu. Et tout ce que nous avons, c'est un don de Dieu. Notre famille, c'est un don de Dieu. Nos enfants, c'est un don de Dieu. Notre époux, notre épouse, c'est un don de Dieu. L'Église, c'est un don de Dieu. Et bien souvent, nous ne pensons pas à qu'est-ce qu'est le don de Dieu. Nous ne sommes pas tous créés avec des compétences ou talents égaux. Pour une raison, nous sommes tous égaux en termes de valeur. Dieu nous voit tous pareils. Mais nous ne sommes pas égaux en termes de répartition des talents et des capacités. Je sais que ce n'est pas un point de vue populaire, surtout dans la culture d'aujourd'hui, parce qu'on parle beaucoup d'égalité. Mais ce que ce n'est pas, c'est vrai. Quand il s'agit de talents et de capacités, nous ne sommes pas tous égaux. Dieu a intégré la diversité dans sa création. Certains ont beaucoup de talents, d'autres ont juste peu. Bien que cela puisse sembler injuste dans notre société, ce n'est pas ainsi dans l'économie de Dieu. Dieu n'assimile pas les talents à la valeur comme nous le faisons. La parabole de talents nous enseigne que vous avez de la valeur pour lui, non pas en fonction de ce que vous faites, mais plutôt de ce que vous êtes. Mais souvent, nous faisons des choses pour valoriser nous-mêmes, en pensant que ce que je fais, c'est très important pour Dieu. Mais Dieu, il est plus intéressé dans notre personnalité, en notre personne. Dieu attend de nous que nous gérons les talents qu'il nous a donnés. Que ce soit quelques-uns ou plusieurs, nous sommes les intendants de ces talents. Peu importe combien vous en avez, ce que vous en faites compte. Vous vous rappelez de cette histoire que Jésus, quand Jésus voit cette veuve qui vient mettre deux pièces dans le... elle offre seulement deux pièces par rapport à l'autre, des autres qu'ils ont donné beaucoup. Mais ce que nous donnons à Dieu, ça compte. Je trouvais cette citation suivante sur la parabole des talents utile pour résumer les deux leçons précédentes. Un chrétien qui est dans la finance... dans une société libre, dépourvue de malhonnêteté et de favoritisme, la disparité des salaires n'est pas un signe d'injustice. C'est le résultat de la diversité de Dieu au sein de sa création. Mais même si nous ne sommes pas créés égaux en ce qui concerne les talents donnés, il y a une égalité dans cette parabole et dans l'économie de Dieu. Cela vient du fait qu'il faut autant de travail pour que le serviteur à 5 talents produise 5 talents de plus que pour le serviteur à 2 talents de produire 2 talents de plus. C'est pourquoi la récompense donnée à chacun par le maître est la même. Le maître mesure le succès par le degré d'effort. Dieu voit ce que nous avons fait avec ce qu'il nous a confié. Ce que nous avons reçu, qu'est-ce que nous faisons avec? Est-ce que nous faisons l'effort pour donner à Dieu? Comme le dit la parabole des talents, chacun sera jugé selon ses propres capacités. Et nous serons tenus responsables pour ce que nous faisons. Et le maître reviendra et vous serez un jour tenus responsables de ce que Dieu vous a donné. Alors soyez prêts. Ce n'est pas une menace. Tu ferais mieux de faire le bien ou sinon je te mettrai. Non, ce n'est pas une menace. Dieu veut que vous fassiez bien. Il veut dire c'est bien. Il veut dire à chacun de nous, chacun d'entre nous, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Il veut vous bénir avec plus. Il vous a donné tout ce que vous avez besoin pour accomplir le travail qu'il vous a réservé. Cette leçon est plus une opportunité qu'une menace. Mais Dieu a donné l'opportunité pour chacun, un privilège pour travailler pour lui. Il a aussi donné le moyen pour travailler pour lui. Est-ce que nous voyons comme une menace? Est-ce que nous avons peur? Ou est-ce que nous trouvons comme une belle opportunité pour travailler pour notre Maître divin? Dieu nous a tant donné. Et notre réponse, qu'est-ce que nous pouvons donner en retour? Vous souvenez-vous de la réponse du troisième serviteur à son maître? Regardez les versets 24 et 25 de Matthieu 25. Matthieu chapitre 25, versets 24 et 25. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite, il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Cet homme, il est misérable, n'est-ce pas? Il craignait son maître. Mais pourquoi il craignait son maître? Que dit la parole de Dieu à ce sujet? Laissez-moi lire 1 Jean 4, 18. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Donc, c'est les deux, ils ne peuvent pas cohabiter ensemble. La crainte et l'amour, ils ne peuvent pas cohabiter ensemble. Comment nous connaissons notre maître comme un maître Dieu? Est-ce que nous craignons notre divin maître, notre Seigneur, comme un maître Dieu? Ou nous aimons notre Seigneur, notre Sauveur? Et avec les deux, tout change. Notre façon de vivre, notre attitude par rapport à lui, notre attitude de service, tout change. Donc l'apôtre Jean dit, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. C'est exactement ça. Et le troisième serviteur, il craignait le châtiment. Je craignais que tu étais un maître Dieu. Je savais que tu étais un maître Dieu. Mais c'était ça sa relation avec son maître. Donc il n'était jamais un serviteur fidèle. Il n'était jamais un serviteur fidèle. Mais les deux autres, ils ont prouvé, même dans l'absence de leur maître, ils ont prouvé leur fidélité. Et peut-être le troisième, il faisait le semblant quand le maître il était là, il faisait le semblant de travailler. Mais quand le maître il n'était pas là, il était allé cacher le talent, il ne faisait rien. Car la crainte suppose un châtiment, celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. utilisons nos dons et de nos talents pour aimer Dieu et aimer ceux qui nous entourent. C'est le plus grand commandement et l'identifiant unique pour un chrétien. Un chrétien, il n'est pas connu par ses services, par son amour pour son maître. Comment il a aimé son sauveur? Comment il a aimé son Seigneur? En Matthieu 22, 36 à 40, le pharisien ayant appris qu'il avait réduit au silence les sadducéens, se rassemblèrent et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Nous connaissons le deuxième commandement, de aimer son prochain comme nous-mêmes. Rappelez l'autre commandement, allez faire les disciples partout dans le monde. Et ici, nous voyons un autre commandement à côté, de aimer le Seigneur en premier. Et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Donc un serviteur qui aime son maître de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, il fera tout pour son maître. Il fera tout pour son maître, pendant sa présence ou même pendant son absence. La parabole des talents nous montre que Dieu nous tiendra responsable de ce commandement. Dieu se préoccupe davantage de notre caractère que de notre performance. Et Dieu, il voit comment nous sommes, plus que ce que nous sommes en train de faire. Que vous utilisez bien vos talents ou non, ce n'est pas une question de salut. C'est une question de l'intendance. La parabole des talents montre clairement que le problème du serviteur paresseux était qu'il gaspillait ses talents. Enterrer sur la terre, c'est gaspiller, n'est-ce pas? C'était qu'il haïssait son maître. Il n'y avait pas d'amour, donc le contraire, il haïssait. Donc il haïssait le retour même de son maître. Il n'avait aucun amour pour son maître, en fait. Ce qu'il a fait avec les talents n'était qu'un sous-produit de son cœur. Donc, on va conclure, non? Et nous savons que chacun d'entre nous, le Seigneur nous a donné des dons, des talents, pour mettre à son service. Et la question c'est, qu'est-ce que nous sommes en train de faire avec le Seigneur qu'il nous a confié? Est-ce que nos dons et talents sont cachés sous la terre? Est-ce que nous aimons notre Seigneur, notre Sauveur, ou nous craignons le châtiment? La parabole des talents n'est pas que Dieu rejettera ceux qui ont de mauvais résultats, plutôt que certains haïssent leur maître et rejettent sa seigneurie sur eux. Je ne peux m'empêcher de me demander quel aurait été le résultat pour le serviteur qui s'était assis sur son talent s'il était trompé, s'il dit qu'il était trompé. Il assumait ses erreurs. S'il dit que, Seigneur, j'avais de mauvaises pensées par rapport à toi, pardonne-moi. S'il assumait ses erreurs et ne trouvait pas d'excuses, et ne blâmez pas le maître pour sa dureté. Souvent, quand nous blâmons des autres, nous essayons de trouver l'excuse parce que nous voulons cacher notre propre faute. Nous reconnaissons notre faute indirectement. C'est pourquoi nous voulons transférer, et comme c'est que deux personnes qui font l'accident, la personne qui a commis la faute va sauter d'abord pour dire que voilà comment tu as conduit. C'est toujours comme ça. Donc, blâmer des autres ou le maître pour cacher ce qu'il n'est pas fait. S'il assumait ses erreurs, Ils ne trouvaient pas d'excuses, ils ne blâmaient pas le maître pour sa dureté. Je soupçonne qu'il s'était repenti, si il s'était repenti lorsque son maître, le roi, est revenu, les choses se seraient terminées très différemment. Je suppose que ses talents, néanmoins, auraient été donnés à quelqu'un qui pourrait mieux le gérer, mais je pense fortement qu'il aurait trouvé grâce et la restauration. Le problème était qu'il n'en voulait pas. Lorsque nous sommes confrontés à nos erreurs, ou lorsque nous avons été découverts et révélés que nous avons utilisé ce que Dieu a donné sur nous-mêmes. Dieu nous a donné beaucoup de choses, n'est-ce pas? Mais est-ce que nous utilisons pour la gloire de Dieu ou pour nous-mêmes? Est-ce que nous sommes égoïstes? Le fruit d'esprit, nous avons parlé de consolateur ce matin, la consolation éternelle, le consolateur, l'esprit, le fruit d'esprit. Mais est-ce que nous utilisons pour les autres, pour la gloire de Dieu, ou nous voulons garder pour nous-mêmes? Est-ce que nous cachons, nous avons enterré tout cela? Et si c'est le cas, nous devrions repentir. Ne faites pas d'excuses et ne blâmez pas le maître ou bien des autres. Admettez votre échec et ne soyez pas comme le serviteur paresseux. Nous devrions demander pardon à Dieu si nous n'utilisons pas notre talent que Dieu nous a donné pour sa gloire. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour le message que tu voulais donner ce matin à travers de cette parabole. Seigneur, nous pouvons nous voir dans le caractère de ce troisième serviteur qu'il n'a pas fait grand-chose avec ce que le maître l'a confié. Et même ses pensées de toi, de son maître, Seigneur, ce n'était pas juste. Il était erroné. Seigneur, nous trouvons qu'il n'avait pas de vraie relation avec son maître. Il n'était pas un serviteur honnête et un serviteur qui travaillait pour son maître. Seigneur, nous te demandons pardon si nous-mêmes, nous avons des choses que nous n'utilisons pas pour ta gloire. Seigneur, nous reconnaissons le fait que tu nous as confié beaucoup de choses et nous sommes responsables pour ce que tu nous as confié. Aide-nous à avoir un cœur rempli de reconnaissance et de te servir avec joie. Seigneur, nous attendons ton glorieux retour. Nous ne savons pas le jour quand tu vas revenir, mais aide-nous à être comme les deux premiers serviteurs qui attendaient le retour de leur maître et pour recevoir cette commendation, bon et fidèle serviteur. Seigneur, nous te remercions pour ta parole et nous te bénissons, Seigneur, car tu es un Dieu d'amour et de grâce. Dans le bon nom de notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ, nous prions. Et pour ta seule gloire. Amen.